Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie, pour évoquer avec elle les titres à la une à paraître sur cette nouvelle édition de vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Bruno, bonjour à tous.
On commence cette une avec la bataille des retraites, puisque c'est une semaine décisive qui s'annonce avec la journée du mardi 7 mars.
Oui, tout à fait. Donc, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui préparent cette journée du mardi 7 mars. Donc, elle a été choisie par l'intersyndicale il y a quelques semaines déjà, oui. Puisque tout le monde sera rentré de vacances scolaires. Et donc, le mot d'ordre, c'est de mettre la France à l'arrêt pour signifier le refus de tous les syndicats et de nombreux salariés du recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Alors, bien évidemment, nous sommes allés auprès de citoyens aussi, hein, et de ces syndicalistes qui font de la distribution, notamment de tracts, qui se réunissent en Assemblée Générale, oui. Pour expliquer, et qui font aussi de la pédagogie. Et comme il va y avoir aussi la Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars, donc le lendemain, ils font bien évidemment le lien avec les droits des femmes et la situation des femmes salariées, oui. Et des conséquences qu'aurait cette réforme sur leur situation. Donc voilà.
ça c'est pour le grand dossier de la Marseillaise. Le deuxième titre à découvrir, c'est direction le port régional de Sète-Frontignan qui a un nouveau président.
Oui, tout à fait. Alors le port de Sète-Frontignan, il a un nouveau président, c'est Pierre Malagola qui est un élu régional. Oui. Donc nous l'avons rencontré et nous l'avons rencontré déjà pour un peu mieux le connaître et surtout pour qu'il nous explique les ambitions pour cette infrastructure qui emploie énormément de personnes. Hein. Il y a un peu plus de 1000 emplois sur le port et autant voire un peu plus de 1000 emplois indirects aussi.
D'accord.
Donc c'est un port qui a à la fois plusieurs fonctions, à la fois commercial, de plaisance et de pêche. Donc il a ces trois fonctions-là avec des enjeux évidemment importants puisque pour le port, c'est l'idée, ce que nous explique Pierre Malagola, le challenge en fait, hein, le défi, c'est de continuer le développement du port, mais évidemment en tenant compte des défis posés par la crise climatique.
Et hein. Oui.
Donc voilà, donc c'est un entretien, nous l'avons en grand entretien dans le journal ce vendredi 3 mars. Mmh. Et c'est très intéressant parce que c'est une activité économique importante, parfois dont on parle parfois peu.
Oui.
Et c'est intéressant de la voir dans nos colonnes parce qu'il nous explique la réalité et les ambitions de ce port, qui est un port régional. Hein. Mmh.
La Marseillaise revient sur les conséquences de la guerre en Ukraine et s'intéresse notamment à l'accueil des enfants dans l'Académie de Montpellier.
Oui, tout à fait, parce que nous avions évidemment consacré pour le triste anniversaire de la première année de guerre en Ukraine, qui donc est agressée par la Russie là depuis un an. Mmh. Et donc parmi les réfugiés qui sont accueillis, il y a de nombreuses familles, hein, et parmi eux évidemment énormément d'enfants. Mmh. Et donc il y a une mission importante, c'est de permettre à ces enfants d'être scolarisés. Donc nous avons fait le point avec l'Académie de Montpellier, mmh. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enfants qui sont scolarisés. Ils sont 1200.
D'accord.
À être accueillis. Et même si évidemment le flux des réfugiés s'est tari, hein, il y a encore une vingtaine d'enfants par mois qui sont accueillis dans l'Académie de Montpellier. Donc on revient sur évidemment comment ils sont répartis selon les départements.
Oui.
Il y a 60% d'enfants qui sont scolarisés en primaire.
D'accord.
Après, c'est dans les collèges et dans les lycées.
Oui.
Et bien évidemment, c'est une mission importante et nous explique le rectorat. Il faut aussi se bagarrer contre ceux qui ne veulent pas de cet accueil. Mmh. Et c'est une façon aussi de dire que l'éducation est un droit universel.
Oui, fondamental. Allez, on retourne direction Ganges. On en parlait il y a quelques semaines sur l'antenne de Divergence FM et dans les colonnes de la Marseillaise. L'avenir de la maternité de Ganges, qui sera au cœur d'une rencontre entre l'ARS et le collectif pour le maintien de la maternité, aura lieu le 14 mars prochain.
Oui, tout à fait. Alors, Ganges, c'est vraiment emblématique du problème de l'accès aux services publics de la santé.
Oui.
Et là, on touche bien évidemment la question de la maternité et du droit à pouvoir accoucher à côté de ses choix,
oui,
de chez soi, pardon. Et là, on a cette maternité qui appartient en fait à un groupe privé, mmh, et qui ne fonctionne plus parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Or, il y a un collectif qui se bat depuis des mois pour le maintien de cette maternité. Alors, pour l'instant, elle est fermée, mais ce que dit l'Agence régionale de la santé, que c'est simplement une suspension,
oui,
et qu'il faut avoir des professionnels pour pouvoir la réouvrir.
Mmh.
Sauf que ça dure depuis longtemps,
et, oui,
et donc le collectif a demandé une réunion. Elle va avoir lieu le 14 mars, et on explique bien évidemment les enjeux de ce dossier, puisque le collectif, au-delà du fait qu'il exige le maintien de la maternité, il avance aussi des propositions alternatives en attendant de réouvrir pleinement cette maternité,
mmh,
par exemple en faisant en sorte qu'aux urgences, il y ait un lieu dédié aux accouchements.
D'accord.
Bon, ils attendent beaucoup de cette rencontre, et c'est vrai que l'Agence régionale de la santé a fait remonter au ministère ce dossier, parce que, en attendant, s'il n'y a pas pour les habitants de ces territoires la possibilité de pouvoir mettre au monde des enfants,
mmh,
c'est à peu près entre une heure et une heure et demie de route pour aller ou sur Nîmes ou sur Montpellier.
Oui.
Donc c'est significatif des problèmes de déserts médicaux et de la nécessité de se bagarrer pour le service public, quoi.
Allez, pour finir, direction l'espace Saint-Ravi de Montpellier, pour un petit peu de culture, la Marseillaise a choisi de mettre en lumière une exposition du photographe Marc Danton. Ça s'intitule « Cœur à terre ».
Oui, alors c'est une exposition qui se veut aussi très engagée, puisque Marc Danton, il a photographié, évidemment avec beaucoup à la fois de force et de pudeur, des personnes victimes du Mediator.
Oui.
Alors le Mediator, on se rappelle de ce scandale sanitaire qui n'est pas terminé,
oui,
en fait. Hein. Même s'il y a eu un grand procès, il y a eu aussi une lanceuse d'alerte très importante qui a mis en avant et qui a révélé ce scandale. C'est un médicament qui a eu des effets très graves sur, on va dire, le cœur, les poumons, et donc qui a beaucoup handicapé de personnes.
Oui.
Et donc il a fallu et Marc Danton donc expose ses photos, des photos très fortes, hein, où on voit les effets des opérations qui ont été nécessaires pour que les personnes puissent être en partie réparées,
oui,
par les ravages du Mediator. Il a eu du mal à trouver un lieu, parce que ce qu'il nous révèle aussi, c'est que les laboratoires Servier sont partout.
Oui.
C'est une véritable pieuvre, ils mettent de l'argent partout. Et donc, accueillir une exposition qui dénonce les méfaits fait d'un de leurs produits qui à l'époque était un produit phare, eh bien ça n'a pas été facile, et
ouais,
donc il est accueilli à Saint-Ravi à Montpellier, et il va y avoir le 9 mars aussi une conférence spécifique sur ce dossier du Mediator.
Très bien, allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et Françoise, on commence cette une de la Marseillaise avec le dossier au long cours, puisque cette semaine est décisive pour la bataille des retraites avec la journée du 7 mars qui s'annonce.
Oui, tout à fait. Donc nous paraissons vendredi 3 mars et donc nous sommes allés à la rencontre de ceux qui préparent cette journée du mardi 7 mars,
oui.
Donc qui aura lieu donc au moment où toutes les zones en France ne seront plus en vacances. Mmh. Donc hein, c'est pour ça que la date a été choisie. Elle a été aussi choisie parce que cette semaine-là, et ça commence d'ailleurs là, dès jeudi 2 mars, le Sénat va discuter aussi du texte du gouvernement.
Oui.
Avec le projet, le cœur de la réforme, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
Mmh.
Alors, il y a eu et déjà pas mal, on va dire, cinq journées d'action qui ont été extrêmement suivies et qui ont été assez populaires.
Oui.
D'ailleurs, le mouvement de grève du 7 mars est fortement soutenu quand on voit les enquêtes d'opinion.
Mmh.
Et là, nous sommes allés donc à la rencontre de ceux qui préparent cette journée du 7 mars, notamment qui vont faire un travail de, on va dire, de pédagogie et de discussion.
Mmh.
avec les citoyens, notamment sur les ronds-points.
Oui.
Parce que c'est là
on
qu'on rencontre. Voilà, ils distribuent des tracts et ils nous expliquent que, bien évidemment, ils n'ont pas de doute sur le fait que le 7 va être une journée, entre guillemets, réussie, il va y avoir du monde. Mais comme nous explique Alain Martin, qui est donc un travailleur et syndicaliste, il est syndical à la CGT,
mmh.
et il dit qu'il faut mettre dans la tête des gens qu'il va falloir se mobiliser plus qu'une journée. Et bien, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui ont déposé des préavis de grève reconductibles.
Oui.
Hein, donc, et il dit qu'il vaut mieux perdre quelques jours de salaire que 2 ans de vie, quoi.
Mmh.
Hein. Donc voilà, donc il y a un très bon accueil, hein, ça c'est ce qu'ils nous disent aussi, il y a un très bon accueil au-delà des enquêtes d'opinion, quand ils vont en direct, en contact direct avec les citoyens qui sont des travailleurs.
Oui.
Aussi, hein, et des travailleuses, eh bien on s'aperçoit que l'accueil est très positif. Il y a aussi un travail de pédagogie sur le droit de grève, hein, qui
oui.
est fait. C'est ce qu'ils nous expliquent. Hein. Et ils nous disent qu'il y a peu de personnes qui refusent le tract quand il est tendu. Quand il est tendu, donc certains les remercient de nous battre pour eux.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il y a aussi cette grève un peu par procuration.
Oui.
Quand on n'a pas les moyens de pouvoir s'arrêter de travailler. Et puis, il y a aussi une dimension du 7 mars. Eh bien, en fait, il est complètement lié à la journée du lendemain qui est le 8 mars.
Oui.
Ça, c'est le calendrier. Hein, mais le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc, évidemment, cette année, cette journée internationale va être très colorée de manière sociale, avec en son cœur aussi la question de la réforme des retraites.
Oui.
Donc, nous avons interrogé Sonia Salami, qui est la présidente de l'antenne héraultaise d'Oser le féminisme.
Mmh.
Et donc, elle nous rappelle que cette association est très mobilisée sur cette question des retraites. Et elle nous rappelle aussi, puisque nous avons un entretien avec cette jeune femme qui représente l'association, elle rappelle que les femmes touchent en moyenne 40%
oui.
de moins que les hommes à la retraite. Et elles ont déjà du mal aujourd'hui, hein, sans la réforme, à remplir les conditions pour avoir une retraite à taux plein.
Mmh.
Donc on voit que cette année, le 8 mars va être vraiment parmi tous les droits à revendiquer, à défendre aussi, le droit à la retraite digne et complète pour les femmes va être vraiment au cœur aussi et de la journée du 7 et bien évidemment de la journée du 8.
Mmh.
Et puis nous avons aussi dans nos colonnes un article sur le travail des sénateurs.
Mmh.
Nous avons notamment interrogé le sénateur socialiste de l'Hérault, Hussein Bourgi.
Mmh.
Et donc, évidemment, il sera dans l'hémicycle à partir de jeudi,
mmh.
puisque c'est à partir du jeudi 2 que c'est débattu dans l'hémicycle. Et donc, le sénateur socialiste de l'Hérault, Hussein Bourgi, est complètement opposé à cette réforme.
Oui.
Donc, il nous explique aussi que ça sera l'occasion, ce débat dans l'hémicycle de montrer que le gouvernement avance des arguments qui ne sont pas vraiment la vérité. Hein,
oui.
Il nous rappelle aussi qu'il y a une coordination entre les groupes de gauche au Sénat. Il faut rappeler aux auditeurs que le Sénat, il est dominé, il a une majorité de droite,
hein,
une majorité de droite qui est en phase avec le gouvernement sur cette réforme des retraites.
Mmh.
Cela étant dit, dès l'ouverture des débats, la gauche va faire son travail parlementaire. Ils vont notamment déposer des motions, que ce soit d'irrecevabilité, référendaire. Mmh. Et donc, ce que nous explique Hussein Bourgi, ils vont utiliser tous les moyens constitutionnels en leur possession pour marquer les esprits sur la philosophie générale du texte, sachant que c'est une étape. Après, on explique aussi dans la Marseillaise de ce vendredi que le parcours parlementaire va se poursuivre puisque le gouvernement a choisi un véhicule législatif qui limite à 50 jours les débats au Parlement.
Mmh.
Et donc, ça sera au mois de mars. Et le mois de mars a de fortes chances d'être très, très, très social et très... il y aura une résistance du monde du travail contre cette réforme des retraites avec cette date vraiment très forte du 7 mars.
Et puis avec une inflation qui risque de prendre quelques points en plus en mars, tout est réuni pour que tout aille bien.
Tout à fait. Ça sera un cocktail explosif.
Ouais. Allez, on se dirige vers le port régional de Sète-Frontignan qui a un nouveau président et la Marseillaise est allée à sa rencontre.
Oui, alors ça fait un petit moment qu'on veut avoir Philippe Malagola qui vient d'arriver donc à la présidence du port de Sète. Il succède à une grande personnalité qui est Jean-Claude Guesso, qui a marqué de son empreinte.
Ancien ministre.
Ancien ministre des Transports qui a marqué le port de Sète vraiment de son empreinte. Hein. Et donc Philippe Malagola prend le relais. Et donc déjà, il nous explique un petit peu, la première question qu'on lui a posée, c'est de réexpliquer et de représenter à nos lecteurs, et donc en l'occurrence aux auditeurs de Divergence, le port de Sète-Frontignan, c'est quoi? En fait, c'est un grand port méditerranéen.
Mmh.
C'est un port en eau profonde, hein, donc il bénéficie bien évidemment d'un environnement naturel qui est exceptionnel,
tout
ce qui est entre la mer et les étangs, et il est dirigé par la région Occitanie. Hein. À sa tête, il y a un directeur général qui est Olivier Carme, hein, qui est le grand technicien du port, et puis il y a une présidence qui est politique au bon sens du terme. Hein. Ce port de Sète-Frontignan, il a la particularité de comprendre trois grands métiers. Il y a à la fois un port de commerce, un port de pêche et un port de plaisance.
D'accord.
Donc, il y a 1700 emplois directs sur le port, entre les pêcheurs, les marailleurs, l'emploi industriel, les entreprises qui y sont installées, et on peut dire qu'il y en a un peu plus de 1000 d'indirects d'emploi. Donc c'est quand même une grosse structure qui génère pas mal d'emplois sur la zone, hein, et dans le département de l'Hérault. Il a des atouts importants et on vient de le dire, ce que nous dit Philippe Malagola, le grand atout du port de Sète-Frontignan, c'est sa polyvalence. Hein.
Oui.
Sa polyvalence entre le commerce, le côté pêche et le côté plaisance. Hein. Et puis, il y a eu aussi un virage qui a été pris pour le moderniser.
D'accord.
Ce qui explique qu'il a une bonne croissance aussi, ce port. Il a une bonne croissance, mais il a un défi à relever. C'est que bien évidemment, un port, il a envie de se développer, de faire beaucoup de commerce, mais il y a une donnée maintenant qui est complètement fondamentale, c'est le respect de l'environnement.
Et oui.
Et évidemment du social aussi.
Eh oui.
Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un port qui va toujours dans la recherche, par exemple, pour pérenniser l'activité de la pêche,
ouais.
La pêche qui est quand même dans une situation compliquée. Hein, donc, il y a quand même la ressource, la ressource, les ressources de la mer qui sont pas, comment dire, qui
sont en baisse.
Ben voilà, qui sont pas, voilà, donc il faut tenir compte de ça. Il y a les contraintes réglementaires.
Oui. Et le prix du carburant, en rajoutant à ça.
Voilà, exactement. Donc, il y a aujourd'hui, sur le port de Sète, c'est intéressant, 16 chalutiers.
Oui.
Et parmi ces chalutiers, il y en a certains qui vont être démantelés.
D'accord.
Et donc, évidemment, c'est quelque chose de très, il nous explique donc que c'est quelque chose de très sensible comme dossier, parce qu'il faut accompagner les pêcheurs dans cette période très difficile, puisque il y a des chalutiers qui ne sont plus aux normes.
D'accord.
Donc tout ça, voilà, tout ça, c'est quelque chose de comment dire, d'intéressant à découvrir, toutes les facettes de ce port à la fois de commerce et de pêche, qui n'est pas très loin de chez nous, enfin je veux dire de Montpellier, de la ville, de la ville centre, et qui a et qui participe vraiment à l'emploi et à l'économie du département et de la région.
Allez, la Marseillaise revient sur les conséquences de la guerre en Ukraine après un an de déclaration du conflit. Et la Marseillaise s'intéresse à l'accueil des enfants dans l'académie de Montpellier. Ils sont nombreux, visiblement.
Oui, en fait, on s'aperçoit en creusant ce sujet, qui nous, un peu dans la suite du dossier que nous avions fait la semaine dernière, qui est toujours évidemment disponible, hein, notamment sur lamarseillaise.fr, sur la première année, le bilan de la première année de guerre en Ukraine, évidemment vu d'ici avec notamment l'accueil de nombreux réfugiés. Parmi ces réfugiés, évidemment, c'est essentiellement des familles et des enfants. Et il y a énormément d'enfants qui ont été accueillis. Aujourd'hui, il y a 1200 enfants réfugiés ukrainiens qui ont été admis par le rectorat de Montpellier. Ils sont majoritairement à 60% en primaire, 30% en collège et 10% en lycée, ce qui fait de l'académie de Montpellier la cinquième du pays à être la plus sollicitée.
D'accord.
Pour l'accueil des enfants. Ça représente à peu près 6% des jeunes ukrainiens accueillis dans l'Hexagone. Hein. Donc, ils sont 26% parmi ceux qui sont accueillis donc dans l'académie, dans l'Hérault.
D'accord.
Évidemment, il y a quand même un défi important, c'est que ils sont réfugiés à cause d'une guerre. Une guerre que tout le monde veut voir s'arrêter, et notamment ceux qui sont qui ont fui leur pays. Hein.
Oui, oui.
Sauf que évidemment, il y a eu un changement. Au début, les enfants nous expliquent donc le rectorat. D'abord, ils étaient traumatisés, bien évidemment. Certains étaient en deuil. Mais pour qu'ils puissent réussir à l'école, il faut qu'ils soient aussi motivés. Donc il y avait du désinvestissement au début, nous disent-ils, mais comme le retour malheureusement au pays est pour l'instant impossible, il y a un principe de réalité qui s'est imposé, nous raconte donc un des responsables du rectorat, et donc il y a une prise de conscience qu'il faut s'intégrer et s'intégrer par l'école.
D'accord.
Donc c'est un travail évidemment très très délicat. Il y a des, enfin délicat dans le sens où ce sont des enfants évidemment qui ont soif d'apprendre comme tous les enfants, mais qui doivent aussi qui vivent au quotidien avec l'angoisse de la guerre, la séparation souvent avec les pères ou les frères. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place, bien évidemment, au-delà de la scolarité. Et il y a aussi des dispositifs, malheureusement, qui sont fortement critiqués, et on ne s'étonnera pas par l'extrême droite, hein, mais donc le rectorat assume complètement et rappelle que la scolarisation est, je les cite, hein, comme la nourriture, un pilier de l'aide humanitaire. Oui. Si à l'avenir on fait face à des réfugiés climatiques, l'école de la République assumera. Mmh. Donc, il y a eu aussi, le rectorat nous explique qu'il a facilité l'accès à l'université.
Oui.
C'est-à-dire que l'été dernier, il y a des Ukrainiens qui ont donc pu passer leur bac à distance.
D'accord.
Ou intégrer une fac.
Allez, on passe à l'avenir de la maternité de Ganges, qui sera au cœur d'une rencontre avec l'ARS et le collectif pour le maintien de la maternité. C'est le 14 mars prochain, une maternité fermée et depuis quelque temps maintenant.
Oui, bah disons que alors cette maternité de Ganges, elle a été fermée. Alors le prétexte, c'est que en fait il manquait de personnel pour assurer les accouchements. Mais ce qui est difficilement entendable de la part des habitants et aussi des élus. C'est que, en fait, ça appartient à un groupe privé. Mmh. Et on touche du doigt les difficultés de recrutement, peut-être aussi les difficultés de fidéliser des professionnels de santé.
Oui.
Donc, il y a eu, s'il n'y avait pas eu une mobilisation, peut-être que la fermeture de la maternité aurait été définitive.
D'accord.
En l'occurrence, elle est simplement suspendue. Suspendue, mais c'est une suspension qui dure depuis un petit moment, déjà depuis plusieurs mois. Donc, le collectif de défense de la maternité de Ganges veut faire bouger les choses. Mmh. Et donc a obtenu donc une réunion avec le directeur de l'Agence régionale de santé, l'ARS,
oui.
L'ARS qui décide des moyens à donner humains, matériels aussi à des structures de santé. Et donc ça va se dérouler le 14 mars à Montpellier. Et donc c'est au moins une première étape pour pouvoir faire part de leurs questions et des inquiétudes.
Oui.
Il y en a certains, évidemment, dans le collectif qui demandent, par exemple, pourquoi on ne met pas en place un fonctionnement provisoire avec au moins un service d'obstétrique aux urgences.
Oui.
Ils critiquent aussi le collectif des offres d'emploi qu'ils estiment être trompeuses. Par exemple, lorsqu'un professionnel vient passer un entretien,
oui.
Par exemple, on lui propose simplement un contrat à durée déterminée.
D'accord, donc ça n'incite
chose
pas, quoi.
Qui n'est pas très pérenne et qui ne va pas forcément attirer pour s'installer sur place.
Mmh.
Évidemment, le collectif qui est constitué de citoyens, il travaille main dans la main, c'est ce que nous racontons avec les élus.
Oui.
Et donc ils vont rien lâcher, hein, puisqu'ils nous expliquent qu'ils vont continuer à vérifier juridiquement tous leurs leviers d'action.
Mmh.
Ils veulent mettre l'État, donc le gouvernement, devant ses responsabilités,
oui.
Car ils estiment qu'ils ne sont absolument pas aidés. Et ils ajoutent qu'il serait naïf de douter de leur détermination.
Mmh.
Donc évidemment, ils appellent aussi les professionnels de santé, les élus, les habitants, à venir les soutenir, hein, pendant la réunion. Qui a un double but, hein, c'est obtenir des réponses,
oui.
Et c'est aussi d'informer sur la situation de la maternité et expliquer pourquoi le combat continue.
Mais on sent, Françoise, en filigrane derrière tout ça, d'après tout ce que vous dites, et depuis qu'on en parle sur l'antenne de Divergence FM, qu'il y a une véritable volonté de fermer cette maternité, parce que c'est pas en donnant des CDD peut-être payés comme tout le monde à des médecins pour venir s'installer dans des déserts médicaux que ça va fonctionner. Au contraire, il faut les surpayer, ces médecins.
Bah, disons que là, on touche du doigt le problème de fond, de crise du recrutement, faute de personnel.
Oui.
Mais aussi, c'est quelque chose qui est général, mais en plus, en zone, rurale, c'est encore plus accentué, puisque il faut permettre aussi à ces professionnels de venir vivre à proximité des lieux de soins. Donc la conséquence pour l'instant de cette fermeture, c'est que les femmes enceintes dans cette zone-là, qui est une zone rurale en fait, elles sont obligées de se déplacer ou à Nîmes ou à Montpellier pour accoucher. Mais en plus, ça, ça vient ajouter des patientes dans les hôpitaux qui sont déjà aussi surbookés, comme ils disent. Donc il y a un véritable risque. Alors l'ARS avait proposé une offre alternative avec l'ouverture d'un centre périnatal de proximité. Donc l'objectif c'est d'assurer un suivi avant et après l'accouchement, mais le problème reste entier parce que comme nous dit le collectif, c'est une fausse solution. Et puis il y a aussi le groupe Cap Santé qui est un peu en cause, qui est mis sur la sellette, puisqu'il promet lui aussi de construire une nouvelle clinique. Mais d'ici là, la communauté de communes du pays Viganais, là où est situé le territoire où est située la maternité, en attendant, il n'y a pas de maternité de proximité pour les femmes de ces territoires.
Et on peut penser qu'il y aura quelques accouchements dans les ambulances, malheureusement, ce qui implique beaucoup de problèmes, notamment pour la maman et pour le bébé.
Tout à fait.
Allez, on y reviendra, j'imagine, dans les colonnes de la Marseillaise après cette réunion.
Nous suivrons le 14 mars cette réunion, bien sûr.
Côté culture, la Marseillaise a choisi de mettre en lumière une exposition du photographe Marc Dantan qui fait écho à une actualité puisque ça parle des ravages du Mediator et l'expo s'appelle « Cœur à terre ».
Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment voulu mettre en avant cette exposition qui va commencer donc le 4 mars jusqu'au 26 mars. Oui. Marc Dantan, en fait, il a choisi de témoigner des ravages du Mediator en photographiant les victimes et leur corps. Donc, il y a des images très fortes, mais qui révèlent vraiment la souffrance endurée encore aujourd'hui par ces victimes de ce médicament. Donc, ce médicament, on rappelle que c'est un antidiabétique qui a été commercialisé en 1976 par les laboratoires Servier. Il a été retiré uniquement de la vente en 2009 grâce à la mobilisation de ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte, le docteur Irène Frachon, qui est pneumologue, et donc qui a révélé les ravages sur le cœur notamment et les poumons de ce médicament qui est un véritable poison. Et donc ce que nous raconte le photographe Marc Dantan, ça a été difficile de trouver un lieu pour exposer ces photos parce que le laboratoire Servier, nous explique-t-il, c'est une véritable pieuvre qui finance partout où il peut.
C'est la folie,
donc,
ça.
On mesure aussi le courage qu'il a fallu au docteur Frachon pour révéler ce scandale. Et même aujourd'hui, alors que le scandale est connu, quand on veut exposer les ravages du Mediator, ça reste compliqué, mais c'est possible, puisque cette exposition est donc visible. Donc c'est une série de 52 portraits de victimes de ce médicament. Alors, il nous explique, le photographe, que l'objectif, c'est vraiment de mettre en immersion le public dans la douleur silencieuse des victimes. Alors, il a dit que c'était un exercice vraiment inhabituel. Et donc, je le cite, j'ai écouté chaque victime afin de comprendre son vécu, et donc de pouvoir rendre compte par l'image ce qu'elle avait subi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'exposition de photos, elle est enrichie des œuvres de Fanny Gillequin, qui est une dessinatrice, de David Pitre, qui est un sculpteur, et de Maya Amiel, qui est une plasticienne textile.
D'accord.
Et donc, on a une très belle exposition à l'espace Saravi, qui ouvre ses portes le 4. et jusqu'au 26 mars. Donc elle a aussi le temps de s'installer et donc on a le temps d'aller la voir. Et parallèlement, il va y avoir une conférence qui va être organisée le jeudi 9 mars à la Fac de droit et de sciences politiques de Montpellier,
oui,
en présence d'Irène Frachon.
D'accord.
Et de Jean-Christophe Coubris, qui est avocat spécialisé dans la défense et l'indemnisation des victimes, pour justement évoquer les conséquences du médiator. Nous expliquons tout ça dans les colonnes de la Marseillaise de ce vendredi.
Et vous en expliquez bien plus encore dans les colonnes de la Marseillaise qui sera à retrouver donc ce vendredi. Je rappelle le site internet www.lamarseillaise.fr. Et quant à nous, Françoise, on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine.
Avec un grand plaisir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.